CFM Villefranche, le mag.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le mag, oui, édition de ce lundi 13 décembre. Les lundis, on parle de santé, on parle de bien-être, de mieux-être. Et puis un peu d'assiette aussi, de nutrition et d'équilibre alimentaire avec Karine Justeau, chirurgienne, dentiste, coach sportif et parfois historienne, à ce que j'ai cru comprendre.
Et c'est le cas aujourd'hui, figurez-vous.
Et on va le découvrir dans un instant. Juste au passage, deuxième partie d'édition du magazine d'actualité que je vais partager aujourd'hui avec Catherine Colfi-Tortora, thérapeute psychocorporelle et praticienne en somatic experiencing. En VF, ça donne expérience somatique. On en parle tout à l'heure. Pour l'instant, à vous la parole. Karine.
Donc juste pour vous raconter au détour de mon petit coup de gueule l'histoire de la perception de l'obésité, d'accord, c'est-à-dire comment les personnes en situation d'obésité sont perçues ou plus exactement ont pu être perçues dans notre histoire, d'accord. Vous savez que ça n'a pas toujours été identique et ça a beaucoup évolué au début. Donc quand je dis au début, c'était à la préhistoire, les femmes qui avaient des rondeurs étaient plutôt représentatrice d'une bonne santé parce qu'il fallait qu'elles aient de la force, etc., etc. Et puis, petit à petit, dans le temps, quand on est arrivé au Moyen-Âge, au 15e siècle, au 16e siècle, il y a eu un culte du corps équilibré, voire du corps mince, qui a commencé à apparaître.
Ça, c'est les magazines.
Alors, au 15e siècle, je ne sais pas si c'était les magazines, mais toujours est-il qu'il y avait déjà ce culte de la santé. Et effectivement, vous avez raison, ça n'a eu de cesse que de progresser, cette histoire-là. Et même déjà au 17e siècle, on a retrouvé des écrits qui déjà émettaient des critiques fortes quant aux personnes aux situations d'obésité. D'accord ? Et il y a même eu des époques où on mettait en lien le potentiel en bon point d'une personne, femme ou homme d'ailleurs, avec possiblement ses compétences intellectuelles.
Carrément.
En tous les cas, c'est dès le 19e siècle qu'on a vu apparaître des régimes restrictifs, ça existait déjà à cette époque-là. Et puis des outils comme le pèse-personne, ça n'a l'air de rien, mais c'était quand même déjà une forme de contrôle, ou bien des fameux outils de mesure, comme par exemple a pu l'être, et l'est toujours d'ailleurs, l'IMC, l'indice de masse corporelle. Donc vous voyez, une histoire du poids en fait, qui a toujours été en tous les cas mis en avant, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et puis, d'après mes lectures et les renseignements que je peux avoir, on sait aujourd'hui que plus on a eu, au fil du temps, des injonctions à demander aux gens de perdre du poids, de faire attention à la santé, et malheureusement, plus les chiffres de l'obésité augmentent. D'accord ? Donc, si vous regardez les chiffres en France, par exemple, aujourd'hui, sur les gens qui sont en situation de surpoids ou d'obésité, le chiffre reste stable, mais par contre, à l'intérieur, les situations à personnes d'obésité, ça augmente, tandis que le surpoids baisse. D'accord ? Donc, vous voyez, finalement, on pourrait se demander si ces injonctions, le culte de la minceur que vous évoquiez au travers des magazines, de la télé, etc., si finalement c'est pas contre-productif en amenant aux gens qui regardent ou qui voient, même s'ils n'ont pas envie de regarder, qui voient tout ça, de la culpabilité, ça déclenche, on le sait aujourd'hui, certains troubles du comportement alimentaire. C'est là un petit peu mon coup de gueule, d'accord ?
Ah, d'accord.
Et oui, parce que effectivement, essayons peut-être de voir les choses un petit peu différemment et de lutter contre ce qu'on appelle cette grossophobie.
Vous aviez fait une chronique sur la grossophobie il y a quelques années maintenant.
Ouais. D'accord, si vous me le dites, voyez, vous avez plus de mémoire que moi.
Oui, oui.
Effectivement, ce grossophobie, ça a été inventé par une association qui s'appelle Allegro Fortissimo, et qui lutte vraiment sur ce genre de choses. Et ce mot est même rentré dans le dictionnaire, finalement, en 2019. Vous voyez ? Donc, c'est dire si, on commence à en parler.
C'est Laetitia Casta qui a fait bouger un peu les lignes du côté de la mode, des magazines, arriver avec des rondeurs. Il y a eu un petit travail, quand même, image de ce côté-là. Quand même.
Alors, ça progresse, vous avez raison. On a de plus en plus
de
gens...
Ça remonte, Laetitia Casta,
oui,
c'est sûr que...
C'est vrai. On a de plus en plus de gens quand même, qui sont... qui prennent la parole, et des gens de notoriété publique. Donc ça, effectivement, ça fait du bien. Je pourrais citer, par exemple, Josiane Palasco. Je pourrais citer aussi Lola Dubini, que les youtubeurs, enfin les gens qui regardent YouTube connaissent bien. On pourrait citer aussi... comment s'appelle-t-elle ? Isolde. Vous savez, cette jeune femme noire qui s'était présentée à chanter avec une tenue en tulle, qui montrait vraiment ses formes, et qui pourtant a été ambassadrice internationale par L'Oréal Paris. Donc oui, effectivement, aujourd'hui il y a des films, il y a des livres, donc bon voilà, ça progresse, mais malgré tout, il y a quand même encore des petites choses qui peuvent être surprenantes. J'étais tombée par exemple sur un article de presse où l'article vraiment mettait en scène ce monsieur de 300 kilos qui avait dû avoir des porte-charges pour le sortir de chez lui et l'emmener à l'hôpital, et c'était mis en avant comme un roman noir, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est vrai que les journalistes, je pense, ont aussi leur bon mot à dire pour le coup, pour ne pas en alimenter. Vous avez vu, et j'en suis sûre, David, pendant le confinement, plein de petites choses passées sur Facebook ou autre, hein, où voilà, avant le confinement, on était comme si, et puis à la plage l'été prochain, on aura pris effectivement 30 cm de tour de taille. Il y a eu plein de petites taille comme ça, ben, faut imaginer que si on est dans cette situation, ben, effectivement, ça peut amener de la douleur aux personnes qui le vivent, etc. Donc, voilà, c'était mon petit coup de gueule. C'est pour essayer de comprendre que, ben non, ces gens ne sont pas responsables de leur obésité, que c'est une maladie chronique déclarée comme telle par l'OMS d'ailleurs. Donc voyons, voilà, essayons d'être un petit peu tolérants et de regarder ces personnes-là d'un autre œil et puis les considérer ben, comme vous et moi.
Oh oui, bah oui, voilà. Oui. Et vous pouvez taper du poing sur la table pour terminer votre chronique, allez-y, parce que voilà,
c'est hommage à tous les patients.
Bah voilà, histoire de la perception de l'obésité, c'est l'intitulé de votre intervention aujourd'hui, Karine. Intervention que l'on retrouve sous peu sur le site cfmradio.fr. La suite du programme, après un peu de musique en studio, Catherine Colfi-Tortora, thérapeute psychocorporelle et praticienne en somatic experiencing. C'est la suite du programme. Merci Karine, belle journée.
À la semaine prochaine.
CFM Villefranche, le mag.
Allez, vous venez de nous rejoindre suite de cette édition du magazine d'actualité avec en studio, comme annoncé, Catherine Coldfy-Tortora. Bonjour.
Bonjour David.
Vous êtes praticienne en Somatic Experiencing, une méthode thérapeutique peu connue en France. Vous êtes une cinquantaine de praticiens. C'est beaucoup plus développé aux États-Unis, à ce que j'ai cru comprendre. Avant de rentrer dans le pourquoi du comment ça s'organise, comment ça fonctionne et à qui ça s'adresse, un petit mot sur votre parcours et ce qui vous a amené donc à cette méthode Somatic Experiencing ou expérience somatique, on peut le dire en français
voilà,
aussi.
Voilà, on peut le dire comme ça, absolument. Alors, en fait, moi, je suis psychologue et orthophoniste de formation et j'ai exercé pendant 25 ans dans ces deux domaines. Et donc, j'écoutais les personnes, c'était un travail de thérapie verbale. J'ai moi-même, dans ma formation, suivi une psychanalyse, donc j'étais vraiment très orientée vers les mots et vers l'écoute. Et il y a eu un moment, et assez vite en fait, dans mon activité, une petite frustration qui a augmenté au fur et à mesure des années, et c'était les limites de ce travail, parce qu'en fait, il y a une chose dont je ne tenais pas compte, on ne tient pas compte dans les thérapies verbales, c'est le corps. Qu'est-ce que le corps nous dit? Or, le corps, nous sommes dans notre corps depuis la toute première seconde de la conception, et le corps, il a la mémoire de toute notre vie et de tous les événements qui nous sont arrivés, dont nous avons consciemment oublié la plus grande partie.
Notamment les traumatismes.
Hein, et notamment les traumatismes, mais toute la mémoire, en fait, on n'en a pas. On a une conscience de toute petite partie de ce qui nous est arrivé.
J'ai oublié de le dire, mais vous êtes installé en Aveyron, à la frontière Lot-Aveyron, à Saujac, non loin du bien connu Sceaux de la Mouline.
Absolument.
Et vous pratiquez également en Autriche. Hein. Vous pouvez suivre vos
passes. Oui, parce que pour le moment, voilà, j'ai une activité double jusqu'au mois de juin. Je travaille également en Autriche, mais j'exerce le travail que je fais peut se faire également par vidéoconférence, donc par Skype. Donc voilà,
sur l'ensemble du système solaire, vous pouvez intervenir.
Voilà, peux travailler un peu partout quand il y a nécessité, voilà.
La somatic experiencing ou l'expérience somatique, ça repose sur quoi et d'où vient cette méthode? C'est assez récent, hein, je crois savoir.
Oui, ça a été développé maintenant il y a quand même une bonne trentaine d'années par un docteur en biophysique qui s'appelle Peter Levine, qui est un Américain. Donc ça nous vient des États-Unis. C'est un spécialiste qui s'est intéressé au comportement animal et notamment des mammifères avec lesquels nous avons en commun une grande partie de notre système nerveux. Et donc ce travail de somatic experiencing s'appuie également sur les découvertes récentes en neurosciences sur le fonctionnement du cerveau et du système nerveux autonome. Et c'est une approche qui permet en fait la résolution des traumatismes, sachant que nous avons tous, à des degrés divers, subi des traumatismes dans notre parcours, que nous en ayons la mémoire ou non, la mémoire consciente ou non.
Des traumatismes plus ou moins importants,
voilà,
ça peut être une anesthésie.
Vous avez tout à fait raison de signaler, parce qu'en fait, l'anesthésie, les expériences d'opérations chirurgicales sont des vrais traumatismes pour le corps, d'autant plus que il y a une utilité évidente à être opéré, donc c'est pour le bien du corps, et en même temps, le corps se trouve dans une situation où il ne peut pas agir, donc il est dans une situation de figement. Donc c'est traumatique pour lui.
Traumatisme, ça peut être un accident de voiture, avoir vécu
absolument
un incident, un incendie, ce
tout
genre
à
de
fait,
choses.
Tout à fait. Et les traumatismes de développement, voilà. Il y a tout, c'est exactement tout ce que vous...
Et on est fait pour supporter l'insupportable, et c'est ça que vous allez décortiquer, déconstruire.
Voilà, absolument. En fait, comment peut-on supporter l'insupportable? C'est exactement ça. Supporter l'insupportable, notre organisme, notre système nerveux, nous permet ce fonctionnement grâce au système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, en fait, il a deux branches. Quand on est face à une menace et qu'on peut la gérer, c'est le système nerveux orthosympathique qui va intervenir et on va soit combattre, soit fuir. Dans les deux cas, il y a une action. Et en fait, il n'y a pas de traumatisme à ce moment-là, parce qu'on a pu agir quelque chose. Mais si la situation est écrasante, à ce moment-là, ce système orthosympathique est en marche à fond. C'est comme si on appuie sur l'accélérateur à fond. Mais comme c'est ingérable, alors il y a une autre branche du système nerveux autonome qui s'appelle le système nerveux parasympathique dorsal, qui va freiner à fond. On appuie sur l'accélérateur et sur le frein en même temps et on est figé.
Là, on fait le mort. Le corps fait le mort.
Voilà, le corps fait le mort.
Sur une situation.
On n'est plus là, en fait. On est dissocié. On n'est plus présent dans notre corps, ce qui nous permet de supporter l'insupportable.
Comment se déroule une séance ? Combien de temps ça dure ?
Alors, une séance dure une heure. Comment elle se déroule ? En fait, l'idée de ce travail, c'est d'en effet permettre la sortie du figement, de rétablir la fluidité dans le système. Peut-être juste avant de vous expliquer le fonctionnement, c'est important de savoir que notre cerveau, il a une spécificité qui est extrêmement intéressante. C'est que qu'on imagine les choses ou qu'on les vive en vrai, pour lui, c'est pareil. C'est facile à comprendre. Si vous imaginez que demain, vous avez un examen très important pour vous, vous pouvez très bien avoir une boule dans le ventre, ne plus avoir faim, avoir même des troubles digestifs, des troubles intestinaux. Alors que, juste maintenant, il ne se passe rien d'inquiétant. Mais juste d'imaginer, vous allez vous sentir mal. Donc, dans ce sens-là, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Si on imagine quelque chose de positif, on va se sentir bien. Donc, le déroulement d'une séance va aller dans cette direction. C'est permettre, grâce à l'imagination, de quelque part réécrire l'histoire. Alors, on va faire par tout petit morceau, on va permettre à la personne de sentir un confort dans son corps, si tant est qu'elle peut sentir le confort si elle est vraiment très dissociée, c'est-à-dire qu'elle est habituée à jamais être dans son corps, en fait, à jamais faire attention à comment elle se sent. Mais on va créer les conditions d'un confort au niveau du canapé, au niveau de l'espace, que ce soit chaud, que ce soit vraiment doux, et soit l'amener à sentir si elle peut ressentir le confort du canapé, et si c'est pas possible, juste essayer d'accrocher dans la pièce si quelque chose lui permet lui faire ressentir qu'elle trouve quelque chose d'un peu agréable dans l'environnement, juste ça. Et à partir de là, elle va raconter le motif de sa consultation, pour quelle raison elle vient nous voir. Et on peut travailler sur des traumatismes qui sont très, très précis, hein, d'un accident, d'un décès qui n'a pas pu être, dont le deuil n'a pas pu se faire. Ça peut être malheureusement très souvent des violences et des abus, donc, dont le corps a un souvenir.
Le harcèlement à l'école, sur les enfants, c'est un traumatisme.
Absolument. Le harcèlement à l'école. Et il y a aussi, en fait, toutes ces situations de mal-être, d'angoisse, de douleur psychologique et éventuellement physique que le corps a mémorisé, de protection que le corps a mise en place et dont, qui se sont traduites par des douleurs. Je pense, par exemple, à la fibromyalgie. Et on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais ça continue. Et en fait, c'était des stress cumulés. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Et on n'est pas obligé non plus d'avoir des événements dont on a le souvenir. Le corps parle de lui-même.
Vous pouvez nous donner un exemple concret de situation du corps qui dit telle ou telle chose, puisque c'est une observation aussi que vous faites de votre patient quand il est dans votre cabinet et qui vous donne des indications, j'imagine, pour orienter votre séance.
Alors, attention, oui, mais quand vous dites des indications, ça va être des indications très concrètes. Hein? Par exemple, je peux en effet voir une personne, je lui demande, ça c'est très souvent, installez-vous confortablement, et la personne va s'asseoir, mais il y a beaucoup de coussins dans l'espace où je travaille, et je précise qu'on peut utiliser tous les coussins, et la personne en fait va rester assise vraiment tout au début, tout sur le bord du canapé, sans s'asseoir. Et je demande, est-ce que vous êtes confortable ? Oui. Et je dis, mais est-ce que ce serait pas mieux pour vous ? Et là, je vais éventuellement suggérer, est-ce que vous pouvez essayer, juste de voir si c'est mieux ou moins bien, de poser des coussins derrière votre dos ? Et là, en posant le coussin, tout d'un coup, on réalise que, ah ben oui, en fait, c'est beaucoup mieux. Et là, il y a quelque chose d'une respiration qui va arriver. Spontanément, le corps va tout de suite montrer, indépendamment de ce que la personne peut penser, le corps va respirer. Et là, je vais juste dire, voyez, là, votre corps respire. Et la personne va dire, ah oui. De la même façon, vous voyez, je travaille, le canapé est à côté d'une fenêtre, et je vais proposer à la personne de regarder si c'est mieux pour elle d'avoir... J'ai un rideau qui peut cacher la fenêtre et la vue. soit on laisse juste un voilage et on peut voir les arbres, soit c'est préférable de fermer le rideau. Et donc, on regarde, à la fois la personne va me dire c'est mieux, c'est moins bien, et quand elle ne sait pas, je vais voir si le corps tout simplement respire, si le corps se positionne plus en arrière, si il y a les jambes qui se décroisent. Vous voyez, c'est vraiment des choses très simples. Voilà, et c'est ça qui va m'orienter.
On aurait tous besoin d'une séance, hein. C'est ce qu'on peut entendre aussi, puisque des traumatismes, certains, on ne vit pas avec tous les jours, ils sont enfouis, d'autres, on en a bien conscience, et l'idée, c'est de nous en libérer. Hein.
Absolument.
Une séance, ça suffit ou ça s'installe dans le temps ?
Alors, ça dépend vraiment du traumatisme, et ça dépend surtout du souhait de la personne. Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans ce travail. La personne est toujours en charge de son évolution. C'est-à-dire qu'elle vient pour une séance, et une séance est une aventure, un voyage qu'on fait ensemble. Et c'est toujours passé quelque chose dans la séance. Et après, soit les personnes ont envie d'aller plus loin, et à ce moment-là, on va reprendre rendez-vous, mais... Le plus souvent, c'est que je demande à la personne d'attendre un petit peu pour qu'il y ait une intégration de ce qui s'est passé, de me rappeler. Ça peut être au bout de 15 jours, une semaine, un mois. Il y en a qui ne reviennent pas, il y en a qui reviennent de façon aléatoire, il y en a qui viennent en effet toutes les semaines, tous les 15 jours. C'est très très variable. Mais c'est surtout cette grande liberté, en fait, dans le suivi. On n'est pas comme dans une psychothérapie verbale, si vous voulez, dans une régularité, quelque part une dépendance au thérapeute.
Vous êtes en contact aussi, hein, physique, avec votre
patient.
Alors,
il peut y avoir. Oui, oui, absolument. Alors, oui et non. Ça dépend vraiment de comment le corps a été atteint. C'est-à-dire que le contact peut être rassurant, et là, on va l'utiliser, comme le contact peut être très activant, en fonction de l'histoire de chacun. Donc, on essaye, on voit, on ajuste à chaque fois.
Qu'est-ce qui différencie cette thérapie, donc l'expérience somatique, experiencing, d'autres thérapies ? Qu'est-ce qui fait sa plus-value, peut-être ?
Alors, moi, en soi, ce qui fait que je n'utilise plus que cette approche, c'est en fait, pour la première raison, je pense peut-être, c'est que, en effet, c'est le client qui est en charge de sa thérapie. C'est lui qui choisit. La deuxième chose très importante, c'est qu'en fait, dans ce travail, on ne cherche pas à faire quelque chose. On met en place un cadre pour que les choses se fassent toutes seules. C'est-à-dire que on peut comparer ça au travail d'un chirurgien qui met un plâtre quand le bras est cassé. La spécificité, la technicité de ce chirurgien, c'est de placer le plâtre au bon endroit. Voilà, c'est la même chose que ce que nous on fait en tant que thérapeute en somatic experiencing, de vraiment créer le bon cadre, et le corps va réparer tout seul. Et en ce sens, son rapport au monde va devenir différent. Le système nerveux va développer un autre type de fonctionnement, plus fluide. Ce qui veut dire que la guérison est pour toujours. Et c'est en ce sens que moi, je fais vraiment une différence avec ce qu'on appelle les méthodes cognitives, où on va essayer de faire quelque chose. Et c'est très bien, chaque méthode a ses avantages. Mais dès l'instant où on se retrouve dans une situation difficile, alors le corps va retrouver ses mécanismes, dans le cas des méthodes cognitives, parce qu'on lui a appris quelque chose de l'extérieur. Là, c'est lui qui change tout seul.
Catherine Colfi-Tortora, vous êtes thérapeute psychocorporelle, praticienne en somatic experiencing. Merci de nous avoir éclairé sur cette mystérieuse méthode, jeune méthode aussi, 30 ans, c'est très jeune, et que vous pratiquez ici sur notre territoire en Aveyron, précisément à Saujac, mais vous pouvez intervenir aussi sur l'ensemble du système solaire grâce aux hautes technologies de l'Internet. Je ne sais pas quel débit vous avez à Saujac, mais vous devez être parfaitement équipé pour accompagner vos patients de cette manière. Catherine Colfi-Tortora, voilà, on tape ça dans un quelconque moteur de recherche. Il n'y a pas de site internet, mais on vous trouve assez facilement sur les différents canaux de communication. Merci d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir éclairé sur cette méthode. Merci beaucoup.
Merci à vous, David. Au revoir.
CFM Villefranche, le MAG.